hear now an example of correct microphone placing.
Slippery.
When.
Wet.
Yep.
Never.
Slippery.
When.
Wet.
Slippery.
When.
I know you had something to do with whatever you're my brother.
Thank you.
Ah bah ça s'arrête comme ça, dis donc. Bonsoir, bienvenue pour une nouvelle émission de Slippery When Wet sur Radio Campus Grenoble 90.8. Ce soir, une émission éclectique en diable, tout en étant extrêmement cohérente, grâce à qui d'abord ? À Boards of Canada, à qui on consacre ce nouvel épisode. Boards of Canada, dont on vient d'écouter un titre qui s'appelle Chroma Key Dreamcoat, qui est extrait de leur album de Campfire Headphase, qui est sorti chez Warp en 2005. Alors, on définit les acronymes tout de suite. Boards of Canada, on va sûrement les appeler BOC un peu plus tard. Donc voilà, c'est posé. Alors, c'est qui BOC ? C'est un duo d'Écossais qui est formé par Michael Sandison et Marcus Ioin, ouais, quelque chose comme
Ewan.
Ça. Ewan. Ces deux-là, ils sont frangins. Hein. Ils grandissent dans la campagne écossaise, dans une famille de musiciens. Eux-mêmes, ils commencent très très tôt en fait à jouer de la musique. Et quand ils ont une dizaine d'années, ils arrangent leurs premières compos qui vont devenir l'essence même de Boards of Canada, en bricolant avec un enregistreur à bande et en superposant des prises de son jusqu'à ce que ça ressemble plus à rien. Et alors ces deux frangins-là, c'est des frères cachés en fait. Ils le disent pas jusqu'en 2005 parce qu'ils voulaient pas faire comme Orbit, qui eux disent qu'ils font ils sont frères, mais en vrai c'est pas vrai, c'est juste un argument marketing. Et du coup, les deux vrais frangins, Sandison et Ioin, ils font de la musique un peu chacun dans leur coin quand ils sont ados. Et puis en 86, c'est Michael qui invite Marcus à jouer dans son groupe, et voilà, c'est la naissance de BOC.
Oui, en fait, c'est un peu les Charlie Lee Couture et Tom November version écossaise, sauf pour le style.
C'est pas Paul Persson, le...
Mais non, c'est pas Paul Persson, c'est Tom November. Et eux, donc pas Tom November, mais BOC, ils font de l'électronique ambiante. Alors, leur source d'inspiration, c'est les références sonores des années 70-80, des génériques télé, ou alors les documentaires du National Film Board of Canada, d'où leur nom. Dans leur travail, on trouve plein de références sonores à l'enfance ou à la nature. Les atmosphères qu'ils créent, elles sont plutôt nostalgiques. Mais ils écoutent quand même des trucs assez divers, genre My Bloody Valentine, Nitzer Ebb, Front 2-4-2, même un passage métal pour un des deux frangins.
C'est un peu comme nous finalement.
Ouais, pareil. Ouais,
passe-moi le dictaphone, j'ai une idée d'album concept.
Sauf que eux, ils peuvent se permettre de revendiquer leurs influences, et une de leurs influences revendiquées, c'est Cocteau Twins, qui d'ailleurs s'intéresse à eux aussi, a eu des propositions de collaboration. Pour l'instant, sans suite, on attend. Et alors, tout de suite, justement, à propos de Cocteau Twins, on va écouter Wax and Wayne, qui a été enregistré en 82, mais qui est sorti sur l'album BBC Session en 99 chez Rico Disc. Et après, Boards of Canada, She's P de l'album A Few Old Tunes.
Voilà, on a donc écouté Wax and Wayne des Cocteau Twins de l'album BBC Sessions de 99, puis She Is P de Boards of Canada, à qui est consacrée l'émission, sur l'album A Few Old Tunes, qui donc est sorti sur le label Music 70 vers 1996. Donc on va commencer avec les influences de Boards of Canada, et une première influence qu'on peut citer, c'est une influence savante, à savoir la musique concrète.
Oui, Renaud avec Les Béton.
Ah oui, c'est ça, tout à fait. Donc la musique concrète, plus sérieusement, c'est une musique qui incorpore des éléments analogiques, électroniques, dès les années 40, je vais y arriver, désolée. Alors par exemple, dans les pionniers, on peut citer Pierre Schaeffer ou Pierre Henry, qui utilisent des boucles analogiques enregistrées à partir d'instruments qu'ils créent eux-mêmes pour l'occasion. Et à la suite de ces pionniers, donc c'est un genre qui s'est pas mal développé, plus récemment ça a donné la musique minimaliste, on dit en américain, plus platement en français on dit musique répétitive, hein. Et c'est donc
c'est vrai, il faut dire ce qui est.
Voilà, un type de musique qui utilise la répétition comme technique de composition. Donc on peut citer par exemple Steve Reich ou Philip Glass comme exemple. Et puis pour compléter ses influences, Boards of Canada, ça s'inscrit aussi dans le courant ambient, donc c'est un peu un mélange des genres. Le courant ambient initié par Brian Eno, avec par exemple son album Music for Airport de 78, lui-même inspiré par Eric Satie et sa musique d'ameublement. Enfin, on fait vraiment
ça,
des références
de pointe,
là, on se sent hyper intelligent. Voilà, mais on parlera pas d'ambient plus que ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Donc tant pis, ce sera pour
une prochaine émission.
Fois. Exactement. Ouais. Et par contre, on va étudier, oui. Écoutez, un exemple de musique minimaliste avec Steve Reich. Donc ça s'appelle Pulses et c'est extrait de l'album Music for 18 Musicians qui est sorti chez ECM en 1978. Et ensuite, on écoutera un autre titre de Boards of Canada, Rock Beef.
Oh, ça fait au moins 30 points.
Oui,
ça.
C'est un 50, mot compte triple, de l'album Music Has the Right to Children qui est sorti chez Warp en 98.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Slippery When Wet sur Radio Campus Grenoble 90.8. Ce soir, une émission consacrée à Boards of Canada, donc, dont on vient d'entendre un titre. C'était Roy Beef, cet extrait de quoi donc? De Music as the Right to Children. C'était sorti chez Warp en 1998. Alors, pour continuer à faire un peu les savants qui se la racontent là, à propos de Buck, on va parler d'un autre courant dans lequel ils s'inscrivent, c'est le glitch. Le glitch. Qu'est-ce que c'est le glitch?
Arrête de faire ta Isabelle Margot.
C'est un style de musique électronique qui apparaît dans les années 90 et qui se fonde sur la beauté de l'erreur. Ça, c'est fort. Parce que le glitch, ça veut dire quoi? Ça veut dire bug, pépin, une erreur dans la matrice. Tout ça, ça s'applique à tous les artifices sonores analogiques ou numériques qu'on puisse imaginer. Le vinyle qui craque, le CD qui a des plages qui sautent, la disto accidentelle ou provoquée. Alors, tous ces petits glitchs, après, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on les découpe et on les intègre à des morceaux en les bouclant sur eux-mêmes ou sur autre chose pour remplacer, par exemple, un son de percu ou en faire carrément un instrument. Et voilà, chez Buck, c'est historique, puisque quand ils étaient tout petits, comme on a dit en intro de l'émission, bah, ils jouaient avec leur enregistreur à cassette pour faire exactement ça, du tripotage de son jusqu'à ce qu'on reconnaisse plus rien. Alors ce glitch, c'est une idée qui remonte au début du XXe siècle, figurez-vous, avec le manifeste futuriste de Luigi Russolo qui parle de l'art des bruits. Mais alors surtout, ce courant glitch, il connaît son renouveau en Allemagne au début des années 90, quand ça se mélange un peu à l'ambient, et on va en écouter des précurseurs, voire même carrément des papes. Il s'agit des Allemands de Oval, qui sont pionniers. Et puis, dans le même genre, on peut aussi citer des artistes britanniques, par exemple Aphex Twin ou Outtaker, qui sont dans la même veine et qui sont, eux, des contemporains de Boards of Canada.
Alors, Oval, leur technique de production, c'est qu'ils écrivaient sur des CD avec des feutres.
Parle un peu plus près du micro, Catherine.
Bon, d'accord. Là, je risque de l'avaler. Ah, hein,
c'est
mais bon.
Très bien.
Alors, Oval, donc, leur technique de production, c'est qu'ils écrivaient sur les CD avec des feutres et après, ils utilisaient les sons produits. Ce qui me fait dire que le glitch, c'est un genre finalement très populaire auprès des jeunes parents, mais ils ne le savent pas.
Oui, je me rends compte que j'ai pas mal d'albums concept dans ma collection.
Alors justement, d'Oval, on va écouter Shopping Store. C'est l'album Forum Neutsches Discount chez Mille Plateaux en 95. Je peux le refaire, mais j'ai pas le temps. Et après, Boards of Canada, Sir Prenslow Brainfire de l'album Old Tunes Volume 2 chez Music 70. Et ça date de 96.
Thank you. absolutely the perfect place for my first time. When we came together, I could feel the hairs growing on my chest. I saw my future. I saw my past. For a few minutes, it was like being alive. They live happily ever after. All my questions have been answered. All my fears disappeared.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 98, c'est Slippery One Wet consacré à Boards of Canada. Et si vous êtes toujours là, on vous félicite, ça veut dire que vous avez résisté aux 1 minute 30 de Oval Shopping Store qu'on a écouté en premier. Donc ça, c'était extrait de l'album 49 Discount. Et puis ensuite, on a écouté un titre de Boards of Canada qui s'appelle Sir Prancelot Brandfire, extrait de l'album All Tunes Volume 2. On va s'arrêter là. Et donc, comme vous avez pu le deviner, c'est en fait une adaptation de générique de dessin animé où ça parle de roulage de pelle. Et ça tombe bien parce que c'est l'heure justement du râteau du 18 juin.
Oui, alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment je ne suis pas sortie avec Laurent H. À l'époque, j'avais donc jeté mon dévolu sur cet archétype parfait du mal idéal pour étudiante tourmentée, à savoir révoltée vindicative, déprimée ostensif, analyseur compulsif de situation, tout ça assaisonné d'une allure générale de lutteur de classe, bref, tout en lui éveillait mes pulsions les plus romantico-politiques. Le problème, c'est que Laurent H. s'avérait plus que sensible au charme de Laurence B. au prénom prédestiné. Laurence B. avait pour elle qu'elle ne mettait jamais de jupe pour ne pas concéder à l'archétype de la pétasse qui allume avec ses jambes, et en plus elle maîtrisait à mort la technique du fumage de Goldo avec air sombre et pénétrant et bricazipo, ce qui restait quand même un must pour chiner le biquet à cerveau en ces temps de pré-post-communisme. Ce qui me laissait de l'espoir, c'est que Laurent H. n'était pas seul sur les rangs de Laurence B. Alors là, je me suis parié que Lionel fera un jeu de mots potager du genre randonnion, mais ça n'a pas l'air de venir.
Mais j'ai pas le micro.
C'est pour ça. Bref, il y avait du fight. En particulier, un certain Laurent J. affichait clairement ses prétentions.
C'est dément les Laurents.
Ce qui montre bien que 20 ans avant cette époque-là, les procréants manquaient singulièrement d'imagination pour nommer leur bébé, et du coup on le surnommait Raoul. Je pourrais expliquer pourquoi, mais ça me boufferait la moitié du temps à partie, et pas 10 de retrouver. Ce qui me laissait de l'espoir bis, c'est que Laurence B. n'avait pas l'air indifférente à Laurent J. Raoul donc. La balance penchait clairement pour Laurent, mais lequel, c'était encore en égo. Donc peut-être qu'il y aurait moyen avec Laurent H. une fois que Laurence B. serait en main. C'était sans compter sur les qualités d'expérimentateur de mon target. Laurent H., à cette époque, était le chef du bar coopératif de notre formation étudiante, et à ce titre, il était LE détenteur du Graal de toute l'équipe de rugby, à savoir la clé de la réserve à bière, une petite cagna d'un mètre sur deux aux étagères bien remplies. En outre, de son poste privilégié, chef du bar donc, Laurent H. avait pu se rendre compte que Jordan B., alors du calme, hein, Jordan B. c'était une fille, contrairement à ce que son prénom aurait pu faire croire aux plus dépravés de nos auditeurs, je ne reviendrai pas sur les choix onomastiques discutables de la génération précédente. Bref, Jordan B. offrait souvent des cafés à Raoul, malgré sa pingrerie légendaire. Et oui, elle voulait le pécho, c'était clair. Cette observation suggéra à Laurent H. les grandes lignes d'une expérience de psychologie appliquée. Au cours d'une soirée étudiante bien arrosée, pléonasme, il sollicita de l'aide concomitante de Raoul et Jordan B. pour aller chercher des caisses de Jeanlin à la réserve. Il en profita pour les y enfermer tous les deux, à clé, dans l'obscurité la plus complète. Le taux d'hormones dans cette petite pièce close crut suffisamment, du verbe croître, rien à voir avec croire au cuit, il crut suffisamment donc pour que 2 heures plus tard, quand il ouvrit la porte, le rapprochement se fût opéré entre les deux parties qui lui eurent l'air de refermer la porte et de réteindre la lumière. Un nouveau couple était né, laissant le champ libre à Laurent H, qui emballa Laurence B 3 jours plus tard, me laissant méditer en toute tranquillité sur cette belle leçon de manipulation. Du coup, je ne suis pas sortie avec Laurent H pendant presque 1 an.
Oh là là, c'est beau, c'est beau. Bon, bah, c'était magnifique tout ça. On en saura peut-être plus sur l'avenir de Laurent H dans un prochain épisode.
Ça sent le personnage
récurrent quand même, non ? Bon, bref, en attendant, on va revenir à Boards of Canada. On va écouter un contemporain, Chris Clark, avec un morceau qui s'appelle Ted, qui est extrait de l'album Body Riddle, sorti chez Warp aussi en 2006. Et puis ensuite, on écoutera un groupe, je crois qu'il est groupe pas du tout seul, Burial, qui revendique l'influence de Boards of Canada avec un morceau qui s'appelle Night Bus, extrait de l'album éponyme, ça faisait longtemps, Burial donc, sorti chez Hyperdub en 2006.
Voilà, on vient d'écouter un titre de Burial qui s'appelle Nightbus, extrait de l'album éponyme qui est sorti chez Hyperdub en 2006.
Oh, c'est un spécial éponyme cette émission.
Oui, un spécial éponyme. Et puis vous êtes toujours sur Slippery When Wet sur Radio Campus Grenoble 90.8, émission ce soir consacrée à Boards of Canada, et dont Burial revendique l'influence et fait partie aussi avec Bok d'un courant musical. Alors attention, là, ça fait très très savant cette émission ce soir. Maintenant, on va parler donc d'anthologie, anthologie avec,
ouais,
un, H
avec
début.
Un H au début, ouais. Comme dans la préparation.
Voilà, et la même. Qu'est-ce que c'est l'anthologie ? C'est un néologisme inventé par Jacques Derrida en 93 dans son livre Le Spectre de Marx.
Celui qui rigole jamais.
Oui.
Parce qu'il se dérive.
Et il utilise ce mot anthologie pour parler de la manifestation d'une trace à la fois visible et invisible issue du passé et qui hante le présent. Et il cite en exemple le communisme qui, bien qu'il ait disparu sous sa forme originelle, continue d'exister dans les esprits.
Alors, Docteur D, c'est à vous.
Ok. Vers le milieu des années 2000, on commence à employer ce terme de anthologie pour décrire des œuvres, en particulier musicales, d'artistes qui utilisent des enregistrements du passé comme de la matière brute et qui retravaillent donc cette matière passée pour obtenir une musique qui est à la fois très actuelle et qui est remplie de traces du passé.
J'ai vu des truelles à matière brute il n'y a pas longtemps chez Casto.
Ça tombe bien, c'est très lié à la musique concrète.
Oh là là. Je m'en sors plus sur cette histoire de matière qui passe.
Et au travail en studio sur la matière. Typiquement, c'est des gens qui vont avoir recours à des vieux enregistrements, des anciennes bandes d'émissions de radio, des vieux jingles de pub, des craquements de vinyle, etc.
Peut-être qu'on sera recyclé un jour.
Voilà, peut-être, peut-être. En tout cas, le groupe Boards of Canada s'est considéré comme un précurseur du genre. Et c'est même en fait un précurseur d'un sous-genre encore plus technique, l'anthologie résiduelle. Donc l'anthologie résiduelle, c'est lorsque les compositions se mélangent à la matière première du passé avec des sons enregistrés dans le présent, de sorte que la trace du passé se diffuse et disparaît presque dans les nouvelles compositions. Et donc Burial, qu'on a écouté avant, en est un représentant.
Oh, moi, j'ai trop mal à la tête, il faut une récréation.
Ah,
là.
Oui, allez,
alors,
on
la
joue,
récréation,
on joue un peu, allez.
Voilà, c'est qu'on arrive, aux dernières influences de Boards of Canada. C'est des compositeurs de musique de films de genre des années 80. Alors, genre qui
genre
fait peur,
Fabio
Frizzi, John Harrison, Mark Isham, etc. Et alors là, on va faire le qui c'est qui avec Dans le désordre, Reach for the Dead de Boards of Canada, donc, à distinguer du zombie d'Harrison qui fait la bande originale de Day of the Dead de
George
Romero.
J'aime bien.
Voilà. Alors, qui est qui ? Allez-y.
On vous le dit pas. Écoutez. Ça fait peur, ce morceau, c'est vrai.
C'est quoi l'autre ?
À comparer à ça. Là, il y a la tension qui monte.
Là, j'ai trop peur.
Je suis sûr qu'il va y avoir des battements de cœur. Allez, voilà.
Alors, celui-là, c'est Boards of Canada ou c'est Day of Dead de George Romero ? La réponse exacte est la B. Là, c'est le film d'horreur.
Et
alors
juste avant,
tout à l'heure, c'était
Reach for the Dead. Bon, en même temps, ils n'ont pas choisi ce titre-là pour rien. Je pense Boards of Canada, ils devaient avoir une petite idée derrière la tête, mine de rien.
On le remet en entier.
Ouais, allez, on l'écoute en entier. Donc c'est Boards of Canada, Reach for the Dead, qui est extrait de leur dernier album en date, Tomorrow's Harvest, qui est sorti chez Warp en 2013. Et puis juste après ça, ce sera un contemporain de Bok, Square Pusher, avec UFOs Over Leighton Stone, qui est extrait de Feed Me Words Things.
Voilà,
j'ai
du mal,
avec l'anglais.
Des trucs bizarres à manger.
Ouais, non, faut lire et tout. C'est sorti chez Reflex en 96. Voilà, allez, on écoute de la musique.
Voilà, donc plein de musique qui fait peur. Ouh. Donc on a d'abord écouté Birds of Canada avec Reach for the Dead sur l'album Tomorrow's Harvest qui est sorti en 2013. Et puis ensuite on a enchaîné avec Square Pusher avec UFOs Over Leighton Stone de l'album Feed Me Weird Things de 96. Donc Square Pusher, alors une spéciale dédicace à Jocelyn, notre plus grand fan. Square Pusher, c'est un contemporain aussi de Birds of Canada comme Chris Clark qui est aussi chez Warp. Donc voilà, Warp, label qui a beaucoup contribué à développer ce genre. Alors Square Pusher côté com, ils sont plutôt autistes, hein, volontairement discrets pour alimenter le beat, ça dépend comment on le voit. Ils donnent très peu d'interviews, ils ont donné en tout et pour tout une dizaine de concerts en presque 30 ans d'existence.
Mais sans le casque intégral.
Sans le casque intégral, quand même. Niveau discographie, c'est un petit peu pareil. Ils sont très prolifiques, donc on va pas tout lister, hein, on mettra ça sur le site. Mais en gros, ils ont deux périodes identifiables sur trois labels différents, dont la première est justement tout aussi cryptique, donc crypto-confidentielle même, comme dirait Lionel. Donc ils ont sorti à peu près 6 albums sur leur propre label Music 70 entre 87 et, 60, et 96 pardon, tout ça est sorti sur cassette et à peu près introuvable, diffusé seulement à leurs potes. Et puis ensuite il y a une deuxième période à diffusion plus large.
Alors bah oui, justement Twism en 95 c'est sorti chez Music 70, ils l'ont quand même pressé à une centaine d'unités, et après ils signent chez Scam pour un album, et enfin ils tombent dans le monde selon Warp avec une réédition de Twism et 5 albums de 98 à 2013. Alors après il y a une troisième période dont Delphine n'a pas parlé, en cadeau bonus, c'est qu'il y a 2-3 trucs qui sont attribués à Birds of Canada, mais vu qu'ils ont refusé de le revendiquer officiellement, on va pas le faire.
On sait pas si c'est à eux en fait, mais ça nous a pas empêché de vous en passer des extraits quand même pendant l'émission.
Alors, on enchaîne avec un autre contemporain qui est écossais lui aussi. Bah. Et vous l'attendiez avec impatience depuis le mois dernier, c'est Momus. Et alors, Momus,
voilà.
Il nous chante Erase de l'album Bibliothèque chez American Patchwork en 2012.
Show me the key to press to undo this mess. Erase the sky, the sun, undoing everyone. Erase the house, erase the tree, erase my memory. Make this useless process end, and so begin again. So tell me, is it nice? To babble on cocaine, to chase the hurricane. Erase the house, erase the tree, erase my memory. Make this useless process end, and so begin again. Erase the tree, erase my memory. Make this useless process end, and so begin again.
Je vais parler sur les bruits de chèvres à la fin du titre qu'on vient d'entendre. C'était donc Momus avec un titre qui s'appelle Erase sur l'album Bibliothèque qui est sorti en 2012. Et puis, bah, ma foi, tout ceci nous amène lentement mais sûrement vers la fin de cette émission consacrée à Birds of Canada. Donc, on touche à la conclusion de ce Slippery When Wet sur Campus Grenoble 90.8. Donc, tout ça, une émission pleine de bruits, de glitchs, de trucs intégrés pour faire de la musique bizarrement et pas qu'avec des instruments. Tout ça, finalement, c'est devenu extrêmement répandu, hein, parce que il y a pas longtemps, on est allé voir un film de Michel Gondry à propos de Noam Chomsky, où on entend le bruit de la caméra qui tourne par-dessus les interviews. Enfin, tout ça est très très glitch. Et je suis sûr que Gondry, il aimerait à mort signer chez Warp, comme, comme le, l'artiste qu'on va écouter maintenant en conclusion, puisqu'il s'agit de Bibio, donc un influencé par, par Boards of Canada. Bibio, lui, carrément, dans, dans un de ses morceaux qui s'appelle Excuses, qui est sur Mind Bokeh, il utilise le son de gouttes d'eau qui, pour servir de métronome. Il y a 16 gouttes d'eau qui tombent et ça fait le pitch. Et donc, c'est avec un titre de Bibio qu'on va terminer. Il s'agit de Quantock, c'est extrait de l'album Hand Cranked. C'est sorti sur Mush Records en 2006. Et puis, bah, là-dessus, on vous dit au revoir et au mois prochain sur Campus Grenoble 90.8. Bye bye.